Faire église tous différents en mission, c'était le thème de la journée diocésaine des mouvements et associations de fidèles qui s'est tenue à l'abbaye de Belloc le 19 octobre 2019. Nous vous proposons d'entendre le témoignage de Daniel Guéry, chargé de mission à la Conférence des évêques de France et qui a donc participé à cette journée diocésaine des MAF et associations de fidèles à l'abbaye de Belloc en octobre 2019. Daniel Guéry.
Je suis effectivement chargé de mission, on l'a dit tout à l'heure, pour les mouvements et associations de fidèles. C'est pas facile, c'est très long ça, chargé de mission pour les mouvements et associations de fidèles. Mais enfin, c'est comme ça. Et alors, pour répondre à la demande qui a été faite, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi des textes de Vatican II, du Concile Vatican II, et puis quand même, il s'est passé des choses depuis, hein, donc il y a un certain nombre de textes qui ont été produits par nos papes, hein, donc des exhortations apostoliques, mais toutes centrées sur la mission des fidèles laïcs que nous sommes, des fidèles laïcs du Christ, c'est important. On n'est pas des laïcs comme ça, c'est... Et puis donc, je vous parlerai un petit peu de ce qui structure ce qui construit, ce qui structure encore mon existence. Alors, je commence par un extrait, le premier extrait que vous avez, c'est Lumen Gentium, la constitution dogmatique de l'Église. C'est pas rien, ça, hein, la dogmatique de l'Église. C'est le fondamental. Christ, lumière du monde. Alors, on va lire ça, je vais lire ça tranquillement. Hein. Généralement, c'est des textes quand même qui sont tout à fait compréhensibles. Chacun des laïcs doit, devant le monde, être le témoin de la résurrection et de la vie du Seigneur, Jésus, et signe du Dieu vivant. Tous ensemble, et chacun pour sa part, doivent nourrir le monde des fruits spirituels et répandre sur lui cet esprit qui anime les pauvres, les doux, les pacifiques, que le Seigneur dans l'Évangile a proclamé bienheureux. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, il faut que les chrétiens le soient dans le monde. Pour moi, c'est la base. Enfin, ce n'est pas que pour moi. Hein. Et je retiens vraiment cette expression que je voudrais que vous reteniez, que nous retenions, tous ensemble, chacun pour sa part. Répandre donc sur le monde l'esprit de l'Évangile. Mais faire église, vous avez parlé de communion, Monseigneur. C'est ça, tous ensemble, chacun pour sa part. Donc ici, on a chacun une part. On y reviendra tout à l'heure. Alors, dans un autre texte, dans la Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, c'est un autre texte, les pères conciliaires de Vatican II nous ont de suite balisé la route et donné à penser notre présence au monde, notre participation à la gestion de la création. On parle beaucoup en ce moment de la gestion de la création avec... pas seulement avec Laudato aussi, mais avec ce qui arrive dans le monde, enfin les catastrophes. Voilà. Et donc, voilà comment on doit tisser les liens avec nos contemporains. Les joies et les espoirs, c'est les premières phrases de ce texte, hein, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s'édifie avec des hommes rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père et porteurs d'un message de salut qu'il faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Chers amis, nous ne sommes pas hors sol. On n'est pas des êtres éthérés. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié les quatre témoignages qui nous ont montré qu'on n'était pas hors sol, loin de là, et que les tristesses, que les joies des hommes sont nos tristesses et sont nos joies. Donc, dans ce petit texte, on a le terme de « disciples du Christ ». Qui sera repris autrement par le pape François. Mais on est bien des disciples du Christ et en communauté. Donc en ce qui nous concerne, c'est comme disciples du Christ, notre baptême qui nous a rendus disciples du Christ et membres des communautés des chrétiens, membres de l'Église, de cette Église qui entretient avec le monde une relation positive et constructive. Et là j'insiste vraiment très fortement une relation positive et constructive. Le regard du Christ, le regard de Dieu sur notre monde, il est constructeur. Avec nous, certes, mais voilà. On n'est pas là pour détruire. On propose un message de salut, de délivrance, de guérison, on dirait, chez nos amis charismatiques. C'est donc dans ce cadre-là, du monde, de notre vision sur le monde, que nous faisons et que nous ferons Église, tous différents en mission. Alors, je voudrais vous parler maintenant du baptême. Je pense qu'ici, tout le monde est baptisé. Membre de mouvements ou d'associations de fidèles, ce que nous avons tous en commun, tous, avec les prêtres, avec l'évêque, j'espère, Monseigneur, que vous êtes baptisé. Ah, je me vois rassuré, voilà. Hein. Et quel que soit notre état de vie, nous sommes ici baptisés et donc disciples du Christ. Alors attention, je n'ai pas dit que tous ceux qui n'étaient pas baptisés, il ne fallait pas s'en occuper, etc. Hein, vous avez bien compris. Hein. Mais là, on me parle des participants des mouvements et vous êtes là, donc baptisés, nous le sommes. C'est important par rapport à la mission qui nous est donnée. Alors, j'ai repris donc un texte de Lumière du Monde, Lumen Gentium. L'Église sainte, de par l'institution divine, est organisée et dirigée suivant une variété merveilleuse. Car de même qu'en un seul corps nous avons plusieurs membres et que tous les membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi à plusieurs nous sommes un seul corps dans le Christ. Et on retrouve une belle petite phrase, étant chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous revoilà encore avec chacun pour sa part. On se croirait avec une tarte, hein, une tarte avec chacun une part. Il y a des petites parts, des grosses parts, etc. Mais elles sont toutes belles. Hein. Je ne vous dis pas la tarte au Mirabelle en Lorraine. Hein. Hein. Parce que là, on m'a fait goûter le gâteau basque. Hein. Mais la tarte au Mirabelle, c'est chacun pour sa part. Mais là, vous n'en aurez pas parce que je n'en ai pas apporté. Pardon, je reviens au texte du Concile qui est quand même plus sérieux. Il n'y a donc qu'un peuple de Dieu choisi par lui, il n'y a qu'un Seigneur, une fois un baptême, on connaît ça. Hein. Commune est la dignité des membres du fait de leur régénération dans le Christ, commune la grâce d'adoption filiale, commune la vocation à la perfection, il n'y a qu'un salut, une espérance, une charité indivisible. Il n'y a donc dans le Christ et dans l'Église aucune inégalité qui viendrait de la race, de la nation, de la condition sociale ou du sexe, car il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme. Vous n'êtes tous qu'un dans le Christ Jésus. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas un mouvement qui est meilleur que l'autre. C'est terrible, ça, hein, parce que notre mouvement, il est quand même pas mal. Hein. Moi, je vous dis pas, la CI, c'est quand même bien. Mais non, il n'est pas mieux que les autres. Il n'y a plus. C'est valable pour nous, cette question-là. Voilà. Et un évêque n'est pas plus qu'un laïc et un cardinal qu'un moine bénédictin. Et les bénédictins ne sont pas mieux que les cisterciens, figurez-vous. C'est quand même incroyable, ça. Et vice-versa. C'est important, c'est pas, si vous voulez, c'est pas un égalitarisme comme on pourrait trouver dans certains milieux. Non, c'est bien dit, l'égale dignité de fils de Dieu, hein, de créature faite à l'image de Dieu. Et on retrouve cette dynamique dans l'exhortation de Saint Jean-Paul II, fidèle laïc du Christ à propos du baptême. Alors là, il y a des choses qui vont être un petit peu plus compliquées peut-être, mais tellement belles. C'est là un nouvel aspect de la grâce et de la dignité du baptême. Les fidèles laïcs participent, et encore une fois, pour leur part, si vous n'avez pas retenu ça, c'est pas de ma faute, hein, à la triple fonction de Jésus-Christ, sacerdotale, prophétique et royale. Alors bon, dans ce texte, on a quelques petites précisions. Les fidèles laïcs participent à l'office sacerdotal. Et pourtant, on n'a pas été ordonnés, pourtant. Mais lisons. Incorporés à Jésus-Christ, les baptisés sont unis à lui et à son sacrifice par l'offrande d'eux-mêmes et de toutes leurs activités. Parlant des fidèles laïcs, le Concile déclare, j'ai été pédagogue, hein, toutes leurs activités, leurs prières et leur entreprise apostolique, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, s'ils sont vécus dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. Et dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'oblation du corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu, dans la sainteté de leur vie, un culte d'adoration. Et tout à l'heure, au cours de la célébration eucharistique, on se souviendra de cela, de cette offrande que tout laïc va faire. Donc ce n'est pas seulement le prêtre qui participe à ça. Non, nous sommes complètement, à 100%, participants de cette offrande. Donc c'est ça, que quand on dit une dimension sacerdotale. Deuxième aspect, la participation à l'office prophétique du Christ, qui proclame par le témoignage de sa vie et la vertu de sa parole le royaume du Père, habilite et engage les fidèles laïcs à recevoir l'Évangile dans la foi et à l'annoncer par la parole et par les actes, sans hésiter à dénoncer courageusement le mal. Unis au Christ, les fidèles laïcs sont appelés à faire briller la nouveauté et la force de l'Évangile dans leur vie quotidienne, familiale et sociale, comme aussi à exprimer avec patience et courage, dans les difficultés de l'époque présente, leur espérance de la gloire, même à travers les structures de la vie du siècle. Voilà, donc prophète, on a à annoncer. Et ce texte-là, il a été écrit quand même il y a 50 ans. On a l'impression qu'il a été écrit pour nous aujourd'hui. Toujours dans la triple royale, donc maintenant, par leur appartenance au Christ, Seigneur et Roi de l'univers, les fidèles laïcs participent à son office royal et sont appelés par lui au service du royaume de Dieu et à sa diffusion dans l'histoire. Dans l'histoire. On n'est pas hors sol. Ils vivent la royauté chrétienne, tout d'abord par le combat spirituel qu'ils mènent pour détruire en eux le règne du péché, et ensuite par le don d'eux-mêmes pour servir dans la charité et dans la justice Jésus lui-même présent en tous ses frères, surtout dans les plus petits. Donc voilà, prêtre, prophète et roi. Et ça conclut, la participation des laïcs à la triple fonction de Jésus prêtre, prophète et roi trouve d'abord sa racine dans l'onction du baptême, puis son développement dans la confirmation et son achèvement et son soutien dans l'Eucharistie. Voilà, donc c'est vraiment, nous avons une belle charge en Église, on le voit bien là, avec ces trois aspects. Et puis alors, un petit peu plus loin, dans un autre texte, qui est le décret sur l'apostolat des laïcs, donc plus centré sur la mission des laïcs, on peut lire, il y a dans l'Église diversité de ministères, mais unité de mission. Et ça développe. Le Christ a confié aux apôtres et à leurs successeurs la charge d'enseigner, de sanctifier, de gouverner en son nom et par son pouvoir. Mais les laïcs, rendus participants de la charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ, assument dans l'Église et dans le monde leur part dans ce qui est la mission du peuple de Dieu tout entier. Ils exercent concrètement leur apostolat en se dépensant à l'évangélisation et à la sanctification des hommes. Ils exercent leur apostolat en se dépensant à l'évangélisation et à la sanctification des hommes. C'est ça notre mission de laïc. D'abord. Il en est de même quand il s'efforce de pénétrer l'ordre temporel d'esprit évangélique et travaille à son progrès de telle manière que, en ce domaine, leur action rende clairement témoignage au Christ et serve le salut des hommes. Les deux aspects, rendre témoignage au Christ, servir le salut des hommes. Le propre de l'état des laïcs étant de mener leur vie au milieu du monde et des affaires profanes. Au milieu du monde et des affaires profanes. Ils sont appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d'un ferment grâce à la vigueur de leur esprit chrétien. Bon, on l'a déjà pas mal. Alors, on pose ses papiers, je vais faire comme à l'école. Parce que là, je vais vous raconter des histoires. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait témoigner. Bon, moi, je n'ai pas écrit ces textes. Voilà. Bon. Alors, je vais illustrer mes propos là-dessus. Je ne sais pas ce que j'ai mis comme photo. Ah oui, c'est des photos de personnes. Alors voilà, moi je suis né, il y a longtemps, dans un milieu catholique, plutôt de la campagne, dans une ville extraordinaire, enfin une petite ville extraordinaire, qui s'appelle Vaucouleurs. Alors ça dit quelque chose à ceux qui ont fait de l'histoire. C'est qui est à Vaucouleurs là? Et voilà, Jeanne d'Arc. Bon, j'ai réussi à placer Jeanne d'Arc, hein, c'est ça. Et donc j'ai une histoire joannique, évidemment. Mais bon, c'est pas le fond de ma vie, mais quand même, je bénéficie vraiment d'un contexte ecclésial et humain que je qualifierais vraiment de favorable. Et j'ai entendu tout à l'heure dans les témoignages, vous avez dit combien votre famille avait été importante dans la transmission pour certains. Hein. Maman était, et puis j'ai continué. Voilà. Bon. Moi, mes parents étaient pratiquants et engagés. Maman dans la Ligue. Alors, la Ligue féminine catholique, ça dit quelque chose, hein, c'est l'ancienne Action catholique des femmes, voilà. Mais c'était la Ligue. Mais les termes sont intéressants, la Ligue. Et mon père était président de l'Action catholique des hommes pour le diocèse de Verdun. Donc j'étais dans le chaudron, hein, si je puis dire. L'un et l'autre m'ont montré combien la vie de chrétien ne se cantonnait pas à une vision passive de l'attachement au Christ. Même si mon papa était beaucoup plus actif que ma maman, parce que quand même, 5 enfants, c'est du boulot, quoi. Hein, voilà. Et j'ai souvenir d'un aspect particulier, c'est l'action sociale de mon père dans les années 60, à destination des personnes âgées de la commune. Comme dans beaucoup de communes, chez nous, peut-être ici aussi, le 1er mai est un petit peu le jour des personnes âgées. Et on organisait dans la petite ville, là, un repas pour les anciens. Mais bon, il fallait de l'argent. Et donc, mon papa allait de commerçant en commerçant, de magasin en magasin, demander aux commerçants s'ils voulaient bien participer financièrement au repas. Et il allait avec le secrétaire du Parti communiste de Vaucouleurs. Et ça m'a marqué. C'est-à-dire que le type qui était à la messe, là, qui s'occupait du curé, qui voilà, recevait le prêtre à la maison, eh bien, les deux ensemble, et ils s'estimaient beaucoup, hein, il s'appelait Monsieur Carpentier, il s'appelait, les deux ensemble allaient faire ça. Et tous bien fichés, quoi. Donc, c'est sûr que ça marque, ça, hein, ça marque. Et j'ai mis, oui, voilà. Dans le texte, on dit apôtre au cœur du monde et des affaires profanes. Voilà, c'est typique, quoi. Hein, voilà. Comme quoi, l'exemple des parents. Alors bon, moi, je suis resté, on a dit tout à l'heure, instituteur. Mais j'ai un frère prêtre. Enfin, c'est pas mais. Point. J'ai un frère prêtre. Et dire, mais s'il m'entendait. Voilà, donc j'ai un frère prêtre, et c'est vrai qu'avoir un frère prêtre, ça dit quelque chose de la vie sacerdotale. Ça dit quelque chose du tout donné. Et voilà. Bon, en plus, il a été vicaire général pendant 9 ans. C'est pas mal non plus. Il a été administrateur diocésain entre deux évêques pendant 1 an. C'est pas mal non plus. Et comme on a que 3 ans de différence, on se partage beaucoup de choses, ça dit quelque chose de l'Église institution. Donc moi, je lui disais quelque chose du monde, lui me disait quelque chose de l'institution. Je me souviens, quand j'étais à l'école normale, dans les années 60, vous savez que les écoles normales, c'est un peu un bastion de la laïcité. Parce que oui, j'ai oublié de dire, école normale, l'école éducation nationale, du public, l'école libre, l'école gratuite, pardon, laïque et obligatoire. Et donc, c'était pas très bien vu le dimanche matin de dire, ben moi, je vais à la messe. Donc j'ai été à l'école normale de Bar-le-Duc à l'époque, hein, et j'ai fini dans la même école normale, mais qui était devenue IEFM, comme directeur. Voilà, donc on me connaissait bien. Donc, je vous prie de croire que souvent j'ai été interrogé sur mes convictions et sur mes engagements dans l'Église catholique, parce qu'on ne dit rien, mais on sait tout. Et au moment de ma retraite, j'expliquais ça hier, on m'a demandé d'expliquer. Donc j'ai d'abord refusé en disant, écoutez, je suis désolé, mais je suis dans l'école publique. Et j'ai le devoir de réserve, en plus en tant que directeur. Mais le directeur régional m'a dit, Daniel, maintenant tu dois dire. J'ai dit oui, monsieur le directeur, et j'ai dit. J'ai trouvé que c'était un beau rendu. Hein, voilà. Et ce que j'ai pas dit, mais je trouve que j'ai envie de vous le dire là. Quand j'ai été à l'école normale, donc c'était pas facile de vivre ma foi. Enfin, de la vivre explicitement, parce que sinon, ça va aller. Et donc, j'allais souvent voir mon frère qui était au séminaire à Metz, puisqu'on avait un séminaire, il y a un séminaire regroupé. Et alors, je lui racontais, j'allais, et puis avec ses copains, là, il me faisait raconter un petit peu quelle était la vie de l'école normale laïque, là. Et moi, j'écoutais comment ils vivaient, les lots, les machins. Je dis, bon, qu'est-ce que je suis loin de tout ça, quoi. Hein, voilà. Tous différents dans une mission pour faire église. C'est ça. Donc, je viens de là. Tiens, j'ai voulu vous dire un petit peu ça. Mes parents, la manière d'être, de vivre en église. Ça va? Oui? On peut continuer? Vous n'avez pas marre? Non? Bien. Alors, maintenant, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est chacun d'entre nous, là. Hein. Je vous ai repris des textes qui nous disaient comment nous devons être. Mais figurez-vous que, comme on est dans la famille, dans la cité, auprès de nos contemporains, c'est important. C'est important aussi de porter tout ça dans la prière. Vous avez vu, par rapport à ce que j'ai dit sur l'Eucharistie, c'est clair que si on n'a pas la ressource, ça ne marche pas. Hein, on est vite... moi, si je n'avais pas eu des ressources de ce type, on est vite à sec. Hein, on n'est pas nourri, quoi. Hein, donc, on s'affaiblit, puis pof, on tombe. Voilà. Mais le décret sur l'apostolat des laïcs dont on a parlé tout à l'heure, nous dit il ne faut pas oublier que l'homme est social par nature et qu'il a plu à Dieu de rassembler ceux qui croient au Christ pour en faire un peuple, le peuple de Dieu, et les unir en un seul corps. L'apostolat organisé correspond donc bien à la condition humaine et chrétienne des fidèles. Il présente en même temps le signe de la communion et de l'unité dans l'Église qui a dit « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». C'est pourquoi les chrétiens exerceront leur apostolat en s'accordant sur un même but, qu'ils soient apôtres tant dans leur communauté familiale que dans les paroisses et les diocèses qui expriment en tant que tels le caractère communautaire de l'apostolat, qu'ils le soient aussi dans les groupes libres dans lesquels ils auront choisi de se réunir. Et c'est nos fameuses associations de fidèles. Les organisations créées pour un apostolat collectif soutiennent leurs membres, les forment à l'apostolat, ordonnent et dirigent leur action apostolique de telle sorte qu'on puisse en espérer des résultats beaucoup plus importants que si chacun agissait isolément. Dans la conjoncture actuelle, donc 1965-6, hein, et peut-être aujourd'hui aussi, il est souverainement nécessaire que là où s'exerce l'activité des laïcs se développe l'apostolat sous sa forme collective et organisée. Seule en effet cette étroite conjonction des efforts peut permettre d'atteindre complètement tous les buts de l'apostolat d'aujourd'hui et d'en protéger efficacement les fruits. Dans cette perspective, il est particulièrement important que l'apostolat atteigne les mentalités collectives et les conditions sociales de ceux dont il se préoccupe. Sinon, ceux-ci seront souvent incapables de résister à la pression de l'opinion ou des publics ou des institutions. Voilà. Là, oui, c'est le fondement pour... Voilà. On a le devoir, j'ai envie de dire, de se regrouper. Vous savez, on dit souvent, un chrétien seul est un chrétien qui meurt. Voilà. Cette journée, donc, à laquelle vous m'avez invité, est une illustration totale de l'importance donnée à l'apostolat organisé. Et riches sont les diocèses qui peuvent compter sur un tel réseau qui participe à l'annonce de la bonne nouvelle du Christ. Une photo de notre rassemblement aujourd'hui pourrait illustrer avec bonheur ce paragraphe du même décret, et donc on continue à lire. Il existe une grande variété dans les associations d'apostolat. Les unes se proposent d'atteindre le but apostolique général, d'autres des buts d'évangélisation et de sanctification, envisagés sous un angle particulier, d'autres visent l'animation chrétienne de l'ordre temporel, d'autres rendent témoignage au Christ dans des œuvres de miséricorde et de charité. Parmi ces groupements, il faut en premier lieu, considérer ceux qui favorisent et mettent en valeur une union plus intime entre la vie concrète de leurs membres et leur foi. le lien entre la vie et la foi. Les organisations ne sont pas des fins en soi, mais elles doivent servir la mission de l'Église envers le monde. Leur valeur apostolique dépend de leur conformité au but de l'Église, ainsi que de la qualité chrétienne de leur témoignage et de l'esprit évangélique de chacun de leurs membres et de l'association tout entière. Hein? Donc on n'est pas, un mouvement n'est pas fait pour lui-même. Un mouvement n'est pas fait pour lui-même. Un mouvement n'est pas fait pour lui-même. Je répète, parce que quand on a des difficultés dans notre mouvement, et j'en ai eu à la CI, au niveau national, on a tendance à passer notre temps et à dépenser notre énergie uniquement à ça. Et c'est dommage. Vous allez me dire, oui, mais il faut quand même gérer. Oui, mais donnez-vous quand même un temps obligatoire pour la mission. Et vous verrez que, tiens, les problèmes, je ne dis pas qu'ils se résolveront tout seuls, mais ça ira mieux. Et je raconte encore. Donc moi, je suis membre de l'ACI depuis longtemps, parce qu'on faisait des groupes de prière, enfin des groupes après Thésée, vous savez, c'était l'époque, les débuts de Thésée, hein, c'était le synode des jeunes. Hein. Et puis alors on faisait un truc vachement sérieux, très sérieux, mais il fallait tous les ans faire un thème, quoi. Alors bon, tous les ans faire un thème, c'était fatigant. Alors le prêtre, un ami, là, il me dit, mais pourquoi vous n'avez pas l'ACI, quoi ? C'est tout fait. Et puis en même temps, vous êtes en réseau. Donc on est rentré dans l'ACI. Avec mon épouse, donc depuis une quarantaine d'années. Et chaque année, on a nos rencontres qui nous permettent de regarder un petit peu notre vie personnelle, familiale, professionnelle. Et donc, à la lumière des évangiles, on s'interroge, on interroge aussi notre environnement. J'ai souvenir de soirées ouvertes, hein, des conférences sur l'habitat, par exemple. Hein. Alors, moi, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui avaient des châteaux et que c'était important pour eux. Parce que moi, je croyais que tous les gens qui avaient des châteaux... Non, c'est le lieu familial, la tradition, machin. J'ai découvert ça. Bon, eux ont peut-être découvert que nous, on avait une maison, on s'en moquait complètement, on pouvait la quitter du jour au lendemain. Voilà. Donc, voilà, on s'entraide à comprendre le monde, à y trouver les valeurs qui sont les valeurs familiales, les valeurs de transmission, l'amour des enfants, l'amour des... Bon, voilà. Et donc, avec mon épouse, on a créé quelques équipes et même que nous en accompagnions. Donc ça veut dire qu'un soir par mois, obligatoirement, je me retrouve avec mon épouse, avec une équipe. Et on crée des liens et voilà. Donc, l'accompagnement des équipes par des laïcs, c'est pas rien, parce que bon, il faut quand même le lien avec l'Église, le lien sacramentel. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on invente des systèmes pour qu'on puisse se retrouver des équipes avec le prêtre pour la célébration. Enfin, ça nous demande quelque chose de fort. Mais ça nous stimule, hein, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Sinon, j'ai été responsable diocésain. Puis comme j'ai été repéré, j'ai été au national, donc président national, il y a longtemps. J'ai été après, on m'a repéré, donc on m'a demandé d'aller au bureau international. Au bureau international, on m'a élu président international. Et voilà, donc voilà où j'en suis. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les enjeux aux différents niveaux. Comme je vous disais, l'enjeu d'une équipe qu'on accompagne, jeune couple, avec le souci de faire le lien avec l'Église, mais au niveau national, c'est le souci, au niveau diocésain, c'est le souci de faire le lien avec les autres mouvements du diocèse, avec l'évêque. Au niveau national, c'est le lien avec la conférence des évêques, c'est encore un autre niveau. Hein, voilà. Donc, je suis complètement dans la pertinence de l'ACI, mais vous comprenez bien que, comme j'ai aussi été DEMAF, j'ai quand même découvert beaucoup d'autres mouvements et beaucoup d'autres réalités d'Église. Et dans les diocèses voisins, enfin, c'est important que chaque fois que vous pouvez aller voir ailleurs, mais revenez, hein, faites-le. Parce que ça va vous enrichir personnellement, ça va enrichir les gens avec qui vous êtes, ça va enrichir les mouvements. Voilà. Oui, j'ai noté que ma question un petit peu, c'est toujours comment être et rester fidèle laïque du Christ, non pas tourner vers moi, mais vers d'autres, et être véritablement des disciples missionnaires. Mais ça, je pense que dans le diocèse, j'ai cru comprendre que vous entendez beaucoup parler de ça, de disciples missionnaires. Donc, je ne peux faire que confirmer, mais voilà. On passe à un autre aspect. Donc là, on était sur l'ACI nationale. Et donc, je voudrais parler comme témoignage de la dimension internationale. La mondialisation dans laquelle nous sommes baignés nous donne à regarder au-delà de nos frontières. Mais si ce n'est pas nouveau, c'est clair, hein, on va regarder le texte, là. Il y a un petit paragraphe. La mission universelle de l'Église, étant donné la mise en place progressive des structures et l'évolution de la société, requiert de plus en plus le développement des associations apostoliques des catholiques au plan international. Les organisations internationales catholiques atteindront mieux leur but si les groupes qu'elles rassemblent et leurs membres leur sont plus étroitement unis. Bon, je pense que vous n'êtes pas vraiment sensible au premier rapport à l'apostolat international. Et je vous comprends, vous avez déjà bien à faire dans votre propre mouvement, avec votre diocèse. Si l'évêque, vous voyez tous partis au niveau international, je ne suis pas sûr qu'il soit très satisfait. Ceci étant, je peux et je dois vous témoigner de l'importance majeure des associations internationales catholiques. Il y en a en gros une centaine. Donc, comme je l'ai dit, à la fin de mon mandat, j'ai été amené à être président international. Et ce qui est important à mes yeux, c'est le rôle qu'elles ont auprès des institutions internationales. L'ONU, l'UNESCO, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, où on l'a dit tout à l'heure, où je suis. Là, nous avons une place privilégiée, notamment dans nos prises de parole, pour qu'elle soit, je le disais tout à l'heure, audible et crédible. Et ça, ce n'est pas évident, parce que nous portons avec nous le poids de l'image médiatique de l'Église catholique romaine. Et ce n'est pas toujours facile, si vous voulez, de traduire dans les mots du contemporain. C'est pas le fait de traduire ce que pense l'Église, ça, c'est pas, on est de l'Église, donc c'est pas un souci. Le souci, c'est de faire que on soit audible et que les oreilles ne se ferment pas quand on commence à se lever et à prendre la parole. Cet après-midi, si vous voulez, on pourra développer davantage cet aspect. Hein, voilà. Donc, oui, c'est ça. Pour être cohérent, il faut vraiment faire attention à ça, respecter tout le monde. Donc, il faut savoir qu'à ce niveau-là, on est regroupé dans un forum mondial des organisations internationales catholiques. Voilà. Avec cette centaine d'ONG, en réunion de ces ONG tous les 2 ans. Donc, la prochaine, c'est en décembre. Donc, voilà, encore un avion qu'il va falloir que je réserve. Voilà, à Rome. Et on est directement en lien avec la secrétaire d'État. Donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est le cardinal Parolin, donc qui est notre interlocuteur. Voilà. Alors, en parlant de ça, il y a un autre petit paragraphe que je voudrais développer, c'est la relation avec la hiérarchie. Donc, je vous ai montré plusieurs facettes de la vie associative de l'Église, à des échelons différents, qui témoignent de la variété des situations. Mais je ne serais pas vraiment ajusté à la vie de l'Église si je ne mentionnais pas, comme cela est bien noté dans les textes conciliaires, le lien indispensable et fondamental avec l'autorité de l'Église, avec la hiérarchie. On dit souvent, Monseigneur Papin, qui est l'évêque de Nancy et de Toul, qui a été président du Conseil pour les mouvements, il disait toujours, dans l'Église, il y a deux jambes, la vie associative et la vie hiérarchique. Enfin, la dimension associative et la dimension hiérarchique. Voilà. Donc, pour marcher, il faut les deux jambes. Et puis, vous savez très bien que quand on marche, on est toujours en déséquilibre, hein. Donc, de temps en temps, on est plus du côté hiérarchique, de temps en temps, on est plus du côté associatif. Mais comme on avance, on redevient plus du côté hiérarchique. Voilà, donc c'est normal, si vous voulez, qu'il y ait des changements. Alors, on va lire ça. Le lien... Vous avez ça, hein, je crois. Hein. Voilà. Le lien nécessaire avec l'autorité ecclésiastique étant assuré, les laïcs ont le droit de fonder des associations. Merci. Hein, de les diriger et d'adhérer à celles qui existent. Il appartient à la hiérarchie de favoriser l'apostolat des laïcs, de lui donner principe et assistance spirituelle, d'ordonner son exercice au bien commun de l'Église et de veiller à ce que la doctrine et les dispositions fondamentales soient respectées. Les liens de l'apostolat des laïcs avec la hiérarchie peuvent revêtir des modalités différentes selon les diversités des formes et les buts de cet apostolat. Aucune initiative ne peut prétendre au nom de catholique sans le consentement de l'autorité ecclésiastique légitime. Les évêques, les curés et les autres prêtres du clergé séculier et du clergé régulier, donc vous voyez, les moines ont leur place ici, hein, se souviendront que le droit et le devoir d'exercer l'apostolat sont communs à tous les fidèles, clercs ou laïcs, et que dans l'édification de l'Église, les laïcs ont aussi un rôle propre à jouer. C'est pourquoi ils travailleront fraternellement avec les laïcs dans l'Église et pour l'Église, et prendront spécialement à cœur le soutien des laïcs dans leur œuvre d'apostolat. Et bien voilà, on le vit aujourd'hui, l'accueil dans une abbaye avec la présence de l'évêque. Quoi de mieux, hein? Les évêques, ah tiens, choisiront avec soin les prêtres capables et bien avertis pour s'occuper des formes particulières de l'apostolat laïque. Ceux qui exercent ce ministère en vertu d'une mission reçue de la hiérarchie la représentent dans son action pastorale. Toujours attachés fidèlement à l'esprit et à la doctrine de l'Église, ils favoriseront entre les laïcs et la hiérarchie des relations convenables. Il faudrait la définir. Hein. Ils se dépenseront pour nourrir la vie spirituelle et le centre apostolique au sein des associations catholiques qui leur sont confiées. Ils seront présents à leur action apostolique par leur avis judicieux et favoriseront leurs projets. En dialogue constant avec les laïcs, ils rechercheront attentivement les formes les plus capables de rendre l'action apostolique plus fructueuse. Ils développeront l'esprit d'unité au sein même de l'association, aussi bien qu'entre elle et les autres. Voilà, donc pour moi, j'ai souligné la question du dialogue constant. Je crois que c'est ça. Il faut qu'on soit en dialogue constant entre nous et avec la hiérarchie. Ce n'est pas un problème. Pour moi, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une chance. Pour nous, pour eux, pour l'Église et pour le monde. Hein, voilà. Et je vous prie de croire qu'au sein de mes différents mandats, je l'ai vraiment, vraiment vécu. Et vraiment, devant vous, moi, là, que ce soit l'aumônier de mon équipe, l'aumônier diocésain national, l'évêque référent du mouvement, le nonce, le représentant du Saint-Siège, vraiment, je peux témoigner de relations extrêmement respectueuses et constructives. C'est un bonheur, ça a été un bonheur pour moi de travailler, et c'est encore un bonheur. Je rends grâce vraiment à ça. Et pour moi, avoir été appelé comme chargé de mission à la conférence des évêques, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Parce que ça permet, dans les conseils, si vous voulez, on est libre dans les conseils. Enfin, je sens les évêques très libres. Et on peut aller au fond, au cœur des questions, quitte à fâcher l'un ou l'autre. Mais, fâcher au sens dire, je suis pas trop d'accord avec ça. Mais dire pourquoi nous, on y tient. Enfin, quand je dis nous, c'est aussi bien un évêque dit, moi, je tiens à ça pour telle et telle raison. Et finalement, en échangeant, on s'aperçoit que, ben oui, finalement, tous différents, pour faire Église avec la même mission. Il y a 5 critères d'ecclésialité. Alors, j'aurais pu vous les présenter au tout début en disant, attention, hein, les mouvements, là, les associations de fidèles, il ne faut pas rigoler. Hein. Si vous voulez être d'Église, il y a 5 critères. Hein. Je crois qu'après ce que je vous ai raconté, ils sont naturels, ils tombent naturellement. Le premier critère, c'est le primat à la vocation baptismale. Ah oui, on en a parlé, on l'a vu. Hein. Toute association de fidèles laïques est appelée à être toujours davantage un moyen de sanctification dans l'Église. Un moyen qui favorise et encourage une union plus intime entre la vie concrète et leurs membres et leur foi. Donc c'est le baptême, ça. Deuxième aspect, engagement à professer la foi catholique en accueillant et proclamant la vérité sur le Christ. Ben oui, on est fidèle du Christ, donc sur l'Église et sur l'homme, en conformité avec l'enseignement de l'Église. Toute association de fidèles devra donc être un lieu d'annonce et de proposition de la foi et d'éducation à cette même foi dans son contenu intégral. Oui, c'est évident, enfin je veux dire... Même vos témoignages, enfin pas même, vos témoignages de tout à l'heure l'ont dit ça. Quatrième point, le témoignage d'une communion solide et forte dans sa conviction en relation avec le pape et l'évêque. Principe visible et fondement de l'unité de l'Église particulière et dans l'estime mutuelle de toutes les formes apostoliques de l'Église. C'est ce qu'on a raconté, c'est ce que vous avez vécu, c'est ce que nous vivons là. Quatrième critère, l'accord et la coopération avec le but apostolique de l'Église, qui est l'évangélisation et la sanctification des hommes, la formation chrétienne de leur conscience, afin qu'ils soient en mesure de pénétrer de l'esprit de l'Évangile les diverses communautés et les divers milieux. Vous avez dit tous tout à l'heure que vous n'étiez pas là pour vous, que vous étiez là pour d'autres, pour annoncer l'Évangile. Donc, bon, quatrième critère, c'est bon. Et le cinquième, que toutes les formes, dans cette perspective, à toutes les formes d'associations des fidèles laïcs, et à chacune d'elles, on demande qu'elles soient animées d'un élan missionnaire. Disciples, missionnaires. Donc vous voyez que quand on présente quelquefois les critères ecclésiaux, on dit toujours « Ouais, attention, il y a des règles et tout. » Vivons. Vivons. Les règles, elles sont là pour qu'elles soient vécues. Elles ne sont pas là pour nous empêcher d'eux. Elles sont là pour nous permettre d'eux. C'est deux manières de voir l'institution. Voilà, donc, moi, pour clore d'un point de vue plus personnel, hein, vraiment merci de m'avoir invité pour cette journée et surtout pour ce titre, hein, Faire Église, tous différents en mission. Si Vatican II a insisté pour dire que l'Église était peuple de Dieu, c'est bien pour mettre en valeur le baptême dans le Christ. Par le baptême, on devient des fidèles du Christ. Alors, comme laïcs baptisés, nous sommes naturellement en communion avec les autres fidèles du Christ, prêtres et évêques, et cela se concrétise par une collaboration à tous les niveaux. Il n'y a pas, chers amis, de bas et de haut, il n'y a qu'une mission qui nous est commune. Comme le dit le pape François, on est disciples missionnaires au service du monde et de l'Église. Vraiment, mes déplacements font que je suis témoin de super collaborations dans les diocèses, à tous les niveaux, local, régional, international, et je souhaite vraiment que vous le viviez au quotidien ici dans votre diocèse. Avec vous, je rends grâce pour ces diverses vocations dans notre Église, pour les intuitions de chacun de vos mouvements, pour les personnes qui donnent de leur temps et de leur énergie pour que l'Évangile soit connu, pas pour que votre mouvement soit connu. Ça passe par le mouvement, mais c'est l'Évangile soit connu. Votre mouvement mourra le plus tard possible, mais il disparaîtra. Qu'est-ce qui restera ? L'Évangile. Nous, on mourra, mais c'est notre foi qui restera. Vous représentez ici une partie du puzzle qui constitue le diocèse de Bordeaux, de Bayonne, Bordeaux demain. Et comme tout puzzle, il n'est beau que complet. S'il manque une pièce, tout le monde le voit. Donc, restons des pièces du puzzle, humbles, mais belles, parce que toutes ont la même valeur pour leur part. Et pour terminer, je prendrai l'extrait de la première exhortation du pape François. Et une petite histoire encore, une minute. On a rencontré le pape François, on était 5 ou 6, laïcs seulement, et il venait d'écrire Laudato Si. Et alors parmi nous, il y en a un qui était fanat de Laudato Si. Ah, il a dit, Saint-Père, écoutez, merci pour Laudato Si, parce que c'est vraiment un super texte. Alors, il l'a regardé avec un sourire, il a dit, vous savez, si je souhaite qu'il y ait un texte qui reste, c'est Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Et donc je termine par la joie de l'Évangile, au numéro 29, qui est bien connu. Les institutions ecclésiales, communautés de base et petites communautés, mouvements et autres formes d'association sont une richesse pour l'Église que l'Esprit suscite pour évangéliser tous les milieux et secteurs. Souvent, elles apportent une nouvelle ferveur évangélisatrice et une capacité de dialogue avec le monde qui rénove l'Église. Mais il est très salutaire qu'elles ne perdent pas le contact avec cette réalité si riche de la paroisse du lieu et qu'elles s'intègrent volontiers dans la pastorale organique de l'Église particulière. Cette intégration évitera qu'elles demeurent seulement avec une partie de l'Évangile et de l'Église ou qu'elles se transforment en nomades sans racines. Bon enracinement.
Faire Église tous différents en mission. Vous venez d'entendre le témoignage de Daniel Guéry, chargé de mission à la Conférence des évêques de France, témoignage enregistré le 19 octobre 2019 lors de la journée diocésaine des mouvements et associations de fidèles qui s'est tenue à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte.